pas une chasseuse orientale. Je refuse totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans cet échange citoyen. La RDC est en train de réaliser des progrès mesurables pour l'éradication des violences sexuelles liées au conflit. La représentante du chef de l'État congolais en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants a prononcé ce mot le 15 avril à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. D'après Janine Mabunda, le pays est totalement déterminé à mettre fin aux violences sexuelles et à honorer les obligations internationales auxquelles il a souscrit. Dans un rapport publié récemment, les Nations Unies ont indiqué que le nombre de viols attribués aux hommes armés en RDC a baissé de plus de 33% entre 2013 et 2014. Que faut-il faire selon vous pour consolider ces acquis? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Julie Feza assure la réalisation et Pierrot et la Mégie vous la présentent. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Comment consolider les acquis des luttes contre les violences sexuelles en RDC et dans votre milieu? C'est la question au centre de notre échange. Vous êtes très nombreux qui avez déposé le message sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, vos témoignages, vos préoccupations, questions, mais vos pistes et des solutions pour consolider la lutte contre les violences sexuelles en RDC sont les bienvenus dans cette émission qui reçoit pour vous Monsieur Franck Kamunga, conseiller juridique du bureau de la représentante du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans les groupes et forces armées. Franck Kamunga, vous êtes avec nous. Bonjour, bienvenue au studio de Radio Capi.
Bonjour, bureau.
Nous faisons les points sur la lutte contre les violences sexuelles. Pouvez-vous dire aujourd'hui, depuis que Mme Janine Mabunda a été nommée à ses postes comme représentante du chef de l'État dans ces domaines, y a-t-il déjà des progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre les violences sexuelles?
Merci beaucoup, M. Perrot, pour l'invitation. C'est pour moi un honneur de participer avec vous à cette émission. Je tiens d'abord à rappeler que le travail que fait Mme le représentant du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants consolide le travail des différents ministères sectoriels et différents services techniques qui travaillent à la tête de l'État congolais pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles. En termes de progrès, je crois que nous avons eu à le dire plusieurs fois, et tout à l'heure, vous l'avez dit lors de votre introduction, que nous venions de présenter un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 avril dernier, faisant état des grands progrès que la RDC a réalisés depuis la nomination de Madame la représentante. Je veux dire de façon assez brève que le secteur qui a été le plus affecté par ces progrès, c'est le secteur de la lutte contre l'impunité. Parce que, à ce jour, en collaboration avec le secteur de la justice, nous avons obtenu plus de 150 décisions du CERF de condamnation pour les présumés auteurs de violences sexuelles à travers la République démocratique du Congo. Nous avons eu également la condamnation pour la première fois d'un plus haut gradé général de son genre à République démocratique du Congo, ce qui n'est pas commun à travers les autres pays également. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas deux mois, il n'y a pas trois mois, il y a eu aussi la condamnation d'un haut gradé qui est la deuxième personnalité de la police provinciale à Kananga pour viol sur mineur. Et cela continue, la série continue. En dehors du secteur de la lutte contre l'impunité et la justice, je peux aussi dire qu'à ce jour, il y a plus de 65 cas de viol sur mineur et sur majeur à Bounia pour lesquels la justice civile est en train de s'apprêter pour une audience foraine qui va avoir lieu si peu. Mais en dehors de cela, je vais également évoquer notre campagne d'affichage « Briser le silence » qui a été démarré au mois de mars dernier. Je crois que vous avez vu l'ampleur que cela a pris sur la ville et nous sommes en train de travailler pour pouvoir l'amener au niveau de la, au niveau des différentes provinces. Et nous avons eu d'ailleurs un Twitter de M. Martin Kobler qui encourageait cette campagne, expliquant clairement que cela avait un impact sur la prévention de violences sexuelles sur la ville. À côté de ça, je vais vous dire qu'à ce jour, il y a également une avancée significative sur la préparation de l'établissement de fonds de réparation pour les victimes, qui à ce jour a été un problème épineux dans le cadre de la réparation en plus de décisions judiciaires. Les victimes méritent d'avoir la réparation lorsqu'il y a une décision, et que lorsque l'État congolais est condamné in solidum avec les auteurs présumés de viol. Ça, ça fait aussi partie d'un grand débat, et il y a un document qui a été préparé à cette fin. Un acte législatif devra aussi être pris en fonction de cette perspective.
Et là, ce sont les réalisations. Mais vous avez dit que le bureau de la représentance travaille pour compléter les travaux qui les autres services font. Alors concrètement, la mission, c'est quoi la personne représente les chefs de l'État en cette matière? Concrètement, c'est quoi la mission pour arriver à compléter ce que les autres font déjà sur le terrain?
Voilà, je crois que je l'ai dit un peu en prenant la parole. La mission principale du représentant, ce n'est pas de remplacer les ministères du genre, de la justice, mais c'est jouer un rôle d'accélérateur. Ça veut dire, lorsque les difficultés se pointent à l'horizon, lorsque les problèmes ne marchent pas, lorsqu'il y a des points pour lesquels il faut une intervention efficace pour faire accélérer ou se rassurer que les initiatives qui sont enclenchées sont effectivement mises en compte, c'est le travail un peu d'un accélérateur, si je peux le dire ainsi, à travers les différents ministères sectoriels. Mais je dois vous dire que ce travail a été fait en collaboration. Je vais vous dire, par exemple, pour les cas de justice que j'ai évoqués. Cela a été fait grâce à la veille et à la vigilance de Madame le représentant, bien sûr, mais en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère de la Défense pour le cas des militaires qui ont été condamnés. Vous aviez aussi le ministère de l'Intérieur pour le cas de la police, ainsi de suite. Et pour le reste, par rapport avec la réintégration socio-économique des enfants ex-soldats et de victimes, nous avons eu la collaboration de l'INPP, qui est un service technique, la RBC, qui travaille dans le cadre d'encadrement de la jeunesse, l'encadrement professionnel. Donc, ça vous dit que dans tous les secteurs, on trouve toujours un répondant qui nous facilite la tâche et qui nous aide à pouvoir faciliter la mise en œuvre effective des initiatives qui sont enclenchées.
On va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs des Radio Capi qui veulent bien intervenir dans cette émission. Comment, ensemble, on peut arriver à consolider les acquis de la lutte contre les violences sexuelles sur terrain? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais nous avons aussi des messages à déposer sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. C'est comme Hélène Labat qui nous a écrit, elle dit ceci: en tant que survivante, je dirais que tant que l'impunité et la guerre perdurent en RDC, les taux des violences sexuelles ne vont pas diminuer. Les auteurs de ces actes sont toujours en liberté et souvent au nom d'une paix fallacieuse. On sacrifie la justice pour nous, les victimes qui vivons dans la stigmatisation et dans la crainte de représailles. La justice doit se faire pour nous, les survivantes. Nous avons Maître Mavinga qui nous appelle de Matadi dans la province de Bakongo. Maître Mavinga, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour et puis on vous écoute.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour cette thématique qui est très intéressante, parce que les violences faites à la femme sont devenues des repas quotidiens, surtout dans les chefs de militaires ou de ceux qui servent à l'armée de la République démocratique du Congo. En fait, Pierrot, il faut une bonne éducation de nos militaires. Ils se rendent compte qu'ils sont là pour la sécurité. Ces populations civiles sont aussi pour la défense du territoire. Comment est-ce que les militaires, qui en même temps sont en train de défendre l'intégrité territoriale, seront aussi là pour violer les femmes? Et ce n'est pas normal. Et tout cela est dû par le manque de respect de certains préalables. Je présenterai ces préalables en ceci. Pierrot, vous savez, à notre pays, lorsqu'on recrute les militaires, on procède à l'appel de tout le monde. Il ne faut pas que tout le monde devienne militaire.
ce n'est pas les revues de la société qui ont raté une bonne éducation pour devenir des militaires. Et lorsque de telles personnes deviennent des militaires, ils ne vont que violer parce qu'ils n'ont pas une éducation de base. Ce qui demandera à l'État congolais. Il faut des conditions pour que quelqu'un soit recruté militaire. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est lorsque quelqu'un est bandit, qui dérange les gens au quartier, il a échoué dans son éducation et il s'est dit, je dois aller au service militaire, ce qui n'est pas normal. Il faut une bonne éducation, de nouvelles recrues dans l'armée de la République démocratique du Congo, ceux qui ont une éducation de base adéquate, qui permettra à ce que lorsqu'il sera intégré dans l'armée, qu'il puisse aller avec son éducation. De deux, il faut que les militaires puissent être pris en charge. Vous savez, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ces militaires-là, la seule distraction qu'ils ont, c'est coucher avec les femmes, ce qui n'est pas normal. Lorsqu'ils ne sont pas payés, lorsqu'ils n'ont pas assez de moyens, ils créent des incursions dans des villages. Et la conséquence de toutes ces incursions, ce sont nos mamans, nos jeunes filles que nous allons prendre en mariage demain. Comment nous allons nous marier demain si toutes nos jeunes filles sont violées? C'est la responsabilité de l'État congolais qui, en amont, ne sait pas procéder à de bons recrutements pour éviter à ce que toute personne qui est intégrée dans l'armée puisse d'abord avoir une éducation de base et puisse ne pas arriver à commettre des actes odieux à l'égard, à l'endroit de nos femmes. C'est pourquoi je demanderai à l'État congolais de mieux payer les militaires, de pouvoir avoir des services de justice judiciaire qui répriment, qui sanctionnent. C'est des militaires qui violent les femmes, ne restent pas impunis. Parce qu'il y a aussi de hauts officiers qui les font. Souvent, on punit les militaires des barons. Et les militaires des barons, parfois, ils reçoivent des ordres qui viennent de la hiérarchie.
Voilà. Alors, maître Mavinga, je me dis, alors il y a trois points essentiels dans votre intervention. Vous estimez que d'abord, il faut commencer par les recrutements. Ceux qui sont déjà recrutés dans l'armée, ils doivent être assez encadrés. D'abord, par les recrutements, on ne peut pas recruter n'importe qui. Il ne faudrait pas que les gens qui ont échoué dans la vie se disent, nous allons dans l'armée, c'est là où nous pouvons aller nous retrouver. Comme ils ont un problème d'éducation, comme ils ont un problème d'encadrement, alors ils vont... dès qu'ils sont armés, ils vont recourir au viol quand ils sont au front, quand ils travaillent. La deuxième chose, vous proposez la prise en charge correcte de militaires, leurs conditions de vie, les conditions de travail, pour éviter que quand ils sont dans des villages, ils ne puissent se rabattre sur la population et puis recourir au viol. Et vous avez en définitive insisté sur le travail de la justice, des sanctions, quel que soit le rang de nos en uniforme, quel que soit le rang, que ce soit les militaires ou les policiers, ils doivent être sanctionnés dès lors qu'ils sont accusés des faits, des viols avérés, ils doivent être sanctionnés par la justice. Merci beaucoup, Maître Mavinga, de nous avoir appelé de Matadi dans la province de Bakongo. Nous retournons ici à Kinshasa. Docteur Richard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à toutes les femmes et mes condoléances aux femmes violées à travers la RDC et le monde.
Et alors, comment rendre la lutte contre les violences sexuelles plus efficace dans ces contextes pour permettre à ce que cette image quand même de la RDC doit changer, comme plusieurs personnes ont dû coller vraiment cette étiquette des viols à la RDC? Efficacement, qu'est-ce qui doit être fait, Dr Richard?
Oui, merci pour cette question. J'ai une petite introduction, un petit développement. L'introduction, c'est quoi? C'est que c'est une lutte pratiquement sexiste et discriminatoire. Les hommes aussi sont violés, mais on n'en parle pas. Ça, c'est l'introduction. Alors, maintenant, dans le développement, je pose deux petites questions. Est-ce que c'est une culture d'un peuple, ou alors c'est une maladie d'un peuple? Ou la troisième question, culture et maladie d'un peuple. Il faut aller chercher là-bas. Que de nous contenter de cette parade, on est en train de juger en général, le conseiller à la présidence est là, et je me demande si elle contrôle les culottes des gens pour laisser ça, pour amender ça, amender le mal que nous sommes en train de dénoncer. Alors, je vais tenter un peu de répondre à ces trois petites questions. La culture d'un peuple, je crois que cette histoire est amplifiée dans le pays depuis que il avait traversé le pays de l'Est à l'Ouest. Parce qu'à l'époque de Tumuli Bamama ou Tumuli Mobutu, le viol n'était pas là avec cette ampleur. Ces Kadogo-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Nous écoutons les témoignages des gens. Donc, c'est une culture militaire. On est en train de fêter les 100 ans de l'extermination des Arméniens de Turquie. Et dans les racontars des historiens là-dessus, on met à l'avant-plan le viol de femmes. En Alsace, lorsque les Allemands avaient occupé cette partie de France, pour que cette partie soit allemande, avec une langue qui est maintenant l'alsacien, les soldats allemands s'étaient livrés au viol massif et ils ont laissé leurs enfants là-bas. Voilà. Donc, il faut aller chercher à ce niveau-là. Deuxième question, j'ai dit, est-ce que c'est une maladie? Je peux dire oui, je peux tenter de dire oui. Pourquoi? Parce que l'alimentation actuelle, surtout les viandes importées, j'ai appris un peu d'élevage bio, je sais que quelque part on met les hormones de croissance là-dedans, et puis dans les viandes, il faut qu'on booste la croissance. On met aussi dans ces viandes les hormones de féminisation pour qu'on ait de la graisse. Mais pour consolider, avoir la dureté musculaire, on utilise le testostérone. C'est l'équivalent de l'hormone de l'homme. C'est l'hormone de la sexualité positive de l'homme. Est-ce que ça n'a pas d'effet sur le comportement des gens? Est-ce qu'on a cherché? Alors, maintenant, troisième question. Culture d'un peuple et maladie. Prenez les deux réponses associées. Vous aurez aussi une réponse. Maintenant, le comportement des officiels sera quoi? Est-ce qu'il y a une étude qui est faite là? C'est bien de dire, on a un général. Patati, c'est très bon. Mais il était malade ou bien il est issu d'une culture de viol. C'est ça. Pour éradiquer ça, il faut qu'on aille là-dessus. Sinon, on va soigner les causes. Non, soigner les effets et laisser la cause.
Ah oui, alors, si on vous a bien suivi, Dr. Richard, si on vous a bien suivi, votre souci est qu'il faut faire des études aussi scientifiques, sociologiques, c'est-à-dire qu'il faut d'abord découvrir d'où vient ces phénomènes, et vous avez donné la réponse en disant c'est à partir de toutes les guerres que la RDC a connues, la guerre qui a traversé la RDC de l'Est à l'Ouest, de l'Est à l'Ouest. Oui, la guerre est à la base de ce phénomène du viol, mais vous estimez aussi que sur le plan scientifique, il faudrait qu'on soit en mesure de contrôler l'alimentation, contrôler le produit que les gens consomment, parce qu'il y a des viols qui viennent aussi du fait que les gens ont des alimentations qui les poussent facilement à des tensions et des pulsions au niveau de la sexualité. Il faudrait faire toutes ces études pour qu'on soit en mesure d'avoir aussi des réponses plus efficaces à ces phénomènes. Merci beaucoup, Dr. Richard. Pharmacien Billy, vous nous appelez des Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Perrault. Bonjour, professeur de Radio Kati.
Alors, vous avez suivi notre ami de Batadi, il a insisté sur les recrutements dans l'armée. Il faudrait savoir qui sont les recrutés. Il faut former les militaires, il faut les éduquer, il faut les encadrer pour éviter qu'ils recourent au viol parce qu'ils ne sont pas assez encadrés selon ses propos. Mais il a insisté sur le rôle de la justice. Le père Richard de Kinshasa lui pense qu'au-delà de tout, il faut faire des études pour déterminer l'origine, effectivement, de ces phénomènes, en évoquant, bien sûr, la guerre, mais pourquoi pas aussi d'autres pratiques en termes de consommation des produits. Entre les deux, quel est votre point de vue pour arriver vraiment d'une manière plus efficace à consolider la lutte contre les violences sexuelles sur le terrain pharmacien Béni?
Merci M. Promer. Moi, mon intervention serait un peu différente à celle de mes précédents. Dans le sens où je vais intervenir, c'est bien la violence sexuelle aujourd'hui, c'est un système mondial. C'est-à-dire, si vous comprenez bien, il n'y a pas longtemps, le ministre de ministre de l'Intérieur voulait légaliser l'avortement au niveau du président du Congo. Et tout ça, c'est rentre dans le cadre où on veut réduire la population mondiale. Nous avons la population mondiale parce que depuis l'an 2050, la population va se doubler par deux. Et on ne saura pas où cultiver et où prendre de l'eau. C'est-à-dire, on doit toucher à la femme qui est la machine productrice de l'humanité. Donc, on voit organiser des guerres, on voit organiser dans des systèmes de guerre là-bas, on voit pour toucher la femme pour faire en sorte que la femme ne puisse plus encore produire les enfants. Et en dehors de ça, on peut appliquer, donner à la femme des contraceptifs, des hydroquinones, peut-être la femme intellectuelle, le cité au travail, tout ce pour intégrer la femme en fait qui ne peut pas donner les enfants au monde. Parce que c'est un peu ça, l'intervention. Donc, pour donner une solution à cela, bon, je dirais que les conceptions religieuses de toutes les religions qui puissent exister ici au Congo puissent beaucoup plus s'atteler dans l'éducation, dans la rééducation de la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est à savoir si notre gouvernement qui est en place est aussi membre de ce système pour arriver à réduire la population mondiale.
stable.
Alors, Lily, ça dit que vous avez rejoint ceux qui développent la théorie du conspirationnisme qui estime que tout ce qui arrive, tout le malheur, les guerres, tout cela est organisé, créé pour arriver à réduire la population mondiale, et vous estimez que le système viol, il a été instauré ainsi par ceux qui voudraient bien réduire la population mondiale. Ça, c'est votre point de vue, mais vous avez évoqué le vice-ministre chargé de l'intérieur, c'était lors de son intervention au Parlement par rapport à l'affaire fosse commune de Maluku. Il a estimé que pour lutter contre le phénomène bébé abandonné, il serait mieux d'arriver à dépénaliser l'avortement. Les débats étaient aussi organisés dans cette émission Parole aux auditeurs. Mais vous vous posez des questions pour savoir si le fait qu'il y a la guerre qui conduit enfin au viol n'est pas une conspiration mondiale pour réduire la population mondiale en s'attaquant à la femme. Ça, c'est votre interrogation, et vous posez la question sur la RDC, hein, vraiment dans cette conspiration mondiale. Merci, Billy, de nous avoir appelé de Lubumbashi au Katanga. Clovis, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour, Clovis.
Bonjour, Pierre, et bonjour à l'invité, et bonjour à tous les amis de la radio au Capi.
Et pensez-vous, comme notre ami de Lubumbashi, que le viol tel qu'il se déroule aujourd'hui, c'est une conspiration, c'est organisé par les gens qui voudraient ainsi réduire la population mondiale, ou bien vous vous inscrivez dans la logique que c'est un phénomène qu'on peut arriver à combattre en mettant en place des mesures plus efficaces avec le COVID?
Ah oui, bien sûr, c'est vraiment un phénomène qu'on peut arriver à combattre. Le viol n'est pas impossible, c'est un phénomène facile. Si on y met seulement de la volonté et qu'on y met aussi des moyens, on peut y parvenir. Pas pour dire que c'est une conspiration. Moi, je crois que à ce niveau-là, il faut tout d'abord, si vous, je l'ai bien dit, si, pour bien vraiment construire une cité parfaite, il faut tout d'abord qu'il y ait une paix durable. Mais comment conquérir une paix durable? Il faut tout d'abord pacifier le territoire national. Et je vois tout d'abord à l'est du pays, au Katanga et partout ailleurs, il faut tout d'abord lutter contre les milices et les groupes armés qui naissent du jour au lendemain. Et quand on trouve tout d'abord que non, la population vit en paix, il n'y aura pas du tout les viols qui seront causés par exemple, les violeurs ou les groupes armés. À ce moment-là, je crois, Pierrot, qu'il faut tout d'abord chercher à instruire. Et quand on va tout d'abord passer au recrutement, enseigner tout d'abord aux militaires que leur tout d'abord mission principale n'est pas de violer ou de voler, c'est tout d'abord de garantir ou de bien juste pacifier le territoire national et de garantir le territoire national. Je crois qu'à ce niveau ici, il faut aussi lutter contre certains conflits qui opposent les tribus et aussi les ethnies. Tout cela, faut aussi concourir au viol. Si aujourd'hui vous trouvez que non, il y a des tribus ou autant d'ethnies qui sont en conflit, il y aura toujours des viols, il y aura toujours les femmes et les hommes qui seront violés. Je crois à ce moment-là que c'est vraiment un bon aspect que Madame Janine a soulevé. Il faut seulement chercher à pacifier tout d'abord les territoires nationaux, chercher tout d'abord à éradiquer les groupes armés. Et comment y arriver? Il faut vraiment les hommes de bonne volonté. Le viol ne vient pas seulement de l'extérieur, ça vient aussi de l'intérieur. Et c'est sûr aussi que non, si on est mal intentionné, on peut aussi parvenir à laisser sa mission et violer. Je crois à ce moment-là, Pierrot, il faut seulement de la volonté, ce n'est pas que
les moyens. Merci.
Les moyens.
Merci beaucoup, Clovis. Vous estimez que le problème du viol, le phénomène, on peut facilement l'éradiquer en y mettant de la volonté de moyens. Vous avez évoqué la pacification du territoire national, la lutte contre les groupes armés, les milices. Il faut former les militaires, les sensibiliser sur leur mission principale, mais il faut aussi s'attaquer aux conflits communautaires, conflits frontières, parce que la plupart des conflits, il y a toujours, on finit par deux cas de viol. La volonté et les moyens, on peut y arriver. On va terminer cette première partie des auditeurs avec vous, Jean-Marc. Vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Oui, Monsieur Pierrot, cette histoire des violences sexuelles, moi, je l'analyse en deux phases. Mais c'est nécessaire, on fait allusion aux violences sexuelles en rapport avec la guerre, les militaires et autres. Mais moi, je vais aborder l'aspect violence sexuelle dans les cas où nous ne vivons pas une situation de guerre. Il est vrai qu'il y a certains endroits où les femmes sont violées parce qu'il y a des guerres. Mais il y a aussi certains endroits où il n'y a pas de guerre, mais ce sont des phénomènes sociaux, les gens vivent ensemble, il y a cette situation de viol. Est-ce que réellement l'appareil judiciaire appelé à réprimer les violences sexuelles fait exactement son travail? Non. Nous avons eu à dénoncer tout récemment, là, sur Radio Capi, des cas qui révoltent même les gens. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Un monsieur qui viole une fille de 4 ans. On l'arrête, on le met en prison. Un mois après, le monsieur commence à circuler. Et lorsqu'on pose des questions, le procureur et le juge président du tribunal nous disent que non, c'est son droit d'être libéré. Tout individu arrêté peut bénéficier de la liberté provisoire. Mais c'est ce qui favorise l'impunité en matière de violence sexuelle. Et aujourd'hui, à Kamina, je peux vous dire que nous comptabilisons plus de 32 dossiers où les violeurs sont en liberté. À Kamina, nous le voyons. Et c'est pour dire que la violence, les violences sexuelles sont encouragées aussi par l'appareil judiciaire. Parce que lorsque quelqu'un viole, il doit réellement mériter la rigueur de la loi. Et moi, je m'adresse au monsieur qui est au studio avec vous, l'invité, parce qu'il est, il représente Madame Janine Mabunda. Mais nous avons saisi même Madame Janine pour lui faire voir qu'il y a péril en demeure à Kamina. Imaginez-vous plus de 32 dossiers de viol où les violeurs circulent à Kamina. On a violé une fille de 4 ans, 7 ans, et rien n'est fait. Mais Madame Janine Mabunda travaille où? À Kinshasa, nous voulons la voir venir à Kamina parce qu'il y a des cas terribles.
Et d'ailleurs, Jean-Marc, on vous a suivi sur Radio Capi, il y a même, je crois bien, le procureur de la République était après, je crois bien, le parquet à Kamina, je crois si j'ai des précisions, avait répondu pour évoquer l'état d'insuffisance des magistrats, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de problèmes pour que le tribunal puisse siéger en cette matière. Je crois bien, c'était ça la réponse qu'il avait donnée.
Non, mais cette réponse ne vaut pas la peine. Quand nous allons en prison, nous allons trouver qu'il y a des gens retenus là-bas en attente de ces juges-là. Mm-hmm. Pourquoi les violeurs aussi ne peuvent attendre ces juges? C'est parce que le dossier viol, c'est un dossier friqué où on peut débourser facilement 2 millions de francs congolais, 1 500 000 francs congolais, et la personne est libérée.
Et ça, c'est important.
Ceux qui sont gardés en prison, ce sont les minables, les gens sans moyens, le pauvre. Mais nous ne pouvons pas accepter parce que nous pensons que l'impunité est soutenue par les magistrats qui devaient plutôt faire leur travail parce que la répression, une infraction, vous savez, dans une société, l'infraction, on ne peut pas interdire à quelqu'un de le faire. Mais c'est la loi qui va contraindre la personne à ne plus être délinquant. Mais voilà. Donc, la délinquance est soutenue par ceux-là même qui doivent rendre la rigueur de la loi, c'est plus grave.
Moi, j'aimerais
attirer l'attention des décideurs en matière de justice, en matière de violences sexuelles, de voir aussi un autre aspect. Est-ce que réellement la violence sexuelle est réprimée comme il faut? Il n'y a pas l'impunité dans ce secteur-là.
Voilà.
Nous ne devons pas seulement nous focaliser sur à l'Est, il y a la guerre, c'est là qu'on viole, mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas la guerre.
Il n'y a pas la guerre, mais il y a des
violences sexuelles, voilà. Pas son plein, et des fois, ce sont des arrangements entre familles, c'est là soutenu par même ceux-là qui devaient réprimer le viol et les violences sexuelles.
Merci beaucoup,
nous pensons que
Mme Janine
Mabunda doit descendre à Kamina, descendre à l'arrière-pays, pour se rassurer réellement de l'ampleur qu'a pris les violences sexuelles.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Ce cas a été répertorié plusieurs fois. On en a évoqué la situation des Kamina. Je crois bien notre invité a suivi. Vous avez évoqué 32 cas. Vous êtes en train de travailler dans ces dossiers. La réponse qui a été donnée l'autre fois, c'était passé sur les antennes des Radio Capi, qu'il y a insuffisance des juges, on ne sait pas siéger. Et curieusement, tous ces cas, des viols et les cas des 7 ans, 7, 7 de 4 ans, ont été évoqués sur les antennes des Radio Capi. Les messieurs qui continuent à circuler aujourd'hui, estimant qu'on ne peut pas les garder longtemps en prison, comme il n'y a pas de magistrat pour siéger. Merci beaucoup, Jean-Marc, et je crois à notre invité a suivi 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Je remercie, vous gardez la ligne, le temps que l'invité puisse réagir par rapport à toutes les pistes et les solutions proposées par les compatriotes dans cette émission.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Franck Kamunga, vous avez suivi les compatriotes en plusieurs pistes des solutions, mais notre ami vous a posé la question directement, Jean-Marc de Kamina, par rapport à cette situation des Kamina. Nous allons vous parler déjà plusieurs fois sur les antennes de Radio Okapi, beaucoup de cas de violences sexuelles qui ne sont pas réprimées. Pourquoi par les magistrats? Je voudrais savoir si le bureau de représentants travaille jusqu'en province, comment vous travaillez. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a des interventions de nos auditeurs, votre point de vue.
D'accord, merci beaucoup, Pierre. Je crois qu'il y a... Je voudrais d'abord remercier les différents intervenants qui ont posé des questions très intéressantes, très, très importantes. Ça montre bien l'intérêt qu'ils ont sur le sujet. Par rapport à la question sur les conditions de recrutement des militaires et leur moralité, je pense que nos amis qui ont posé la question sont au courant de l'existence du service d'éducation civique et patriotique au sein des FARDC. Ce service a effectivement pour rôle de jouer sur le moral des troupes, de former les militaires, et en cela... et joint le fait de suivi de leur formation avant leur déploiement. C'est quelque chose qui s'est fait de façon systématique au sein de FARDC, et il est important que cela soit dit. Au-delà de ce service d'éducation civique et patriotique, il existe à ce jour l'intégration du cursus de formation sur le droit interhumanitaire, sur la protection des enfants et la protection des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est une innovation de la RDC en termes de formation et du cursus de formation des militaires. Je pense que cela peut répondre suffisamment à la question qu'a posée notre ami tout à l'heure. À cela, je vais ajouter la question venue de notre ami Richard, qui a évoqué la question de la culture ou de la maladie. Je pense qu'il a invité les décideurs à pouvoir entamer des études pour voir quelle est la cause qui encourage ou qui pousse les gens à continuer à commettre le viol, bien que cela est avéré comme quelque chose d'anormal dans nos sociétés. Je voudrais juste informer Richard qu'il existe à ce jour des initiatives d'études sur la masculinité. Et cette étude est entamée conjointement par l'ONU Femmes et l'UNESCO, qui font exactement le travail de savoir pour quelles raisons les personnes continuent à violer, pour quelles raisons, qu'est-ce qui pousse certains de nos compatriotes à continuer à avoir des actes de viol et continuer à abuser de nos filles et nos sœurs et nos mamans. Ben, c'est quelque chose qui se fait, et c'est une initiative qui est en cours, et je suis certain que lorsque l'étude pourra être finalisée, les deux agences pourront avoir la possibilité de pouvoir le partager à un plus grand public pour savoir exactement quelles sont les causes profondes du viol dans notre pays. Notre ami pharmacien Billy, qui appelait de Lubumbashi, qui parlait de l'implication des communautés religieuses et coutumières, je partage le même point de vue que lui. Je pense que l'intégration de l'éducation et de la sensibilisation avec les chefs communautaires, je vois ici les chefs coutumiers, les chefs religieux, qui ont une certaine notoriété dans leur communauté, est une approche capitale. On ne peut pas s'en passer, parce que le viol, c'est pas seulement dans les villes ou dans les cités affectées par les conflits armés, mais vous avez tous les cas de mariage précoce, le mariage avec les mineurs, ça s'appelle viol actuellement au regard de la législation nationale sur les viols. Donc je crois que il faut l'implication des chefs religieux qui célèbrent ces mariages religieux, l'implication des chefs coutumiers qui reçoivent la fille, la dot, et même de leurs parents. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui est, je prends ça comme une contribution au débat, et je voudrais vous remercier pour ça. Clovis, qui a appelé Dombujuma, je crois qu'il a évoqué la même question sur la formation et l'éducation civique de nos troupes. Je sais que c'est quelque chose qui se fait et qui devrait être renforcé auprès de nos troupes. La question principale sur le cas de Kamina, je pense que Jean-Marc, qui a appelé de Kamina, peut appeler sur notre numéro de centre d'appel qui est 089 7000, donc 7000. Et puis 222, je reprends, 0,89, 7,222, et communiquer les détails nécessaires, parce qu'on ne peut apporter une réponse que lorsqu'on a les détails nécessaires par rapport à la question. Mm-hmm. Nous n'avons pas à ce jour, c'est vrai que nous recevons plusieurs cas, mais à ce jour nous n'avons pas encore reçu un courrier quelconque venant d'une organisation
de Kamina. Je crois que si Jean-Marc est en train de vous suivre, il y a beaucoup de gens qui le suivent à Kamina, parce que le débat est intéressant. Vous pouvez encore répondre le numéro pour ceux-là qui ont besoin de saisir les bureaux, par exemple comme l'association de Kamina. Oui.
D'abord, je disais 089 7000, donc 7000, mm-hmm. 222, 0429, 7222, ou bien 47, 33, 33. Ça, c'est le centre d'appel qui reçoit les différentes plaintes à travers la République, mm-hmm. qui nous fait un résumé, nous donne les détails et les personnes contactent pour faire le suivi. Je voudrais vraiment rassurer à Jean-Marc que nous ne travaillons pas pour Kinshasa, nous travaillons pour la République démocratique du Congo et nous pensons que une fois que nous avons eu les détails sur ce cas précis, nous manquons pas de suivre. Et ce n'est pas une raison du tout qui est insuffisance des magistrats pour que les cas de violences sexuelles ne soient pas traitées. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait qu'il existe une circulaire signée par le premier président de la Cour suprême de justice qui interdit à tous les magistrats instructeurs de cas de viol portés à leur connaissance de donner la liberté provisoire au présumé auteur jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. Donc, s'il y a ce genre de cas, je crois qu'il est mieux de les dénoncer et on a un numéro de téléphone pour ça. Donc, il faut les dénoncer et nous allons suivre le cas sans problème. Et d'ailleurs, pour les certaines juridictions où on se trouvait dans le cas où il y avait insuffisance de magistrats, il existe des cas d'organisation d'audience foraine. Nous avons organisé des audiences foraines à Rutshuru, ainsi de suite et ailleurs. On a organisé à Kananga, qui n'est pas une zone affectée par les conflits, qui est dans le Kasaï occidental. Nous l'avons organisé également il n'y a pas longtemps au Bas-Congo, à Bazangongo, pour une dizaine de policiers qui étaient impliqués dans les cas de viol, qui ont été condamnés. Je pense que la collaboration à travers les différents services, associations de la société civile, ainsi de services techniques, va nous aider à pouvoir combattre ensemble ce phénomène. Et il importe qu'on puisse vraiment communiquer lorsqu'il y a des cas de genre. Et moi, j'estime que j'encourage Jean-Marc à pouvoir appeler ce numéro, soumettre le cas et s'assurer que nous pouvons discuter et collaborer pour pouvoir organiser une audience foraine pour ces cas précis.
Voilà. Dieu merci, vous êtes à Manono, j'irai s'abandonner. Plusieurs messages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Lui, Moutanga Dikamela dit ceci, les problèmes des viols restent une préoccupation majeure dans notre communauté. C'est devenu un phénomène social qui ne concerne non seulement les régions affectées par les conflits armés, mais aussi partout en RDC. Et nous pensons, pour diminuer facilement la situation, il faut éduquer notre population et appliquer la loi pour la simple raison que la justice congolaise utilise un filet dont les mailles laissent passer des gros poissons et maintiennent des petits poissons. C'est-à-dire la loi est pour les pauvres et les démunis. Timothée Mukini de Kananga, lutter contre les violences sexuelles c'est bon, mais je pense que tant que le gouvernement continue à initier les groupes armés qui sont à l'origine de ces violences sexuelles, ces civiques s'encouragent à crier la désolation chez nos jeunes filles et mamans, tout en espérant être initiés demain. Le mieux à faire serait de mettre en œuvre la tolérance zéro et lutter contre l'impunité. Arrêter de donner un prix aux infractions des violences sexuelles par l'octroi de l'amnistie. Et Francis Mbo, Mpo de Vienne, dit ceci, la RDC est devenue dans certains forums le paradigme des actes de viol et toute autre forme d'humiliation que certains scientifiques imposent à nos mamans et sœurs. Si ce taux de viol a sensiblement baissé entre 30-33% ou plus, ou encore entre 2013 et 2014, c'est bien, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire tant que dans le mental de certaines personnes, de séquelles de telles tendances existent encore. Ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer les lois de la RDC dans leur intégralité, sans exception, dès que les fragrances sont établies et prouvées. C'est d'éviter la politisation et la commercialisation des branches armées et surtout ne pas admettre au sein des troupes républicaines censées protéger les citoyens congolais des militaires sans aucun sens du citoyen. Dieu merci, vous êtes à Manono dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur, bonjour, Pérou.
Voilà, au-delà de ce que les compartiments ont déjà proposé sur les voies de solutions à la lutte efficace contre les violences sexuelles, qu'est-ce qui doit encore être fait, Dieu merci.
Merci beaucoup, monsieur Pérou. Et je remercie également tous ceux qui suivent la radio Café pour le moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Tout le monde a parlé plus de l'impunité. Oui, l'impunité est là. Mais chaque fois, nous constatons à Manon ici, il y a des chambres foraines qui s'ouvrent, on condamne parfois les militaires au sujet des vols. Bon, c'est déjà un travail de la justice qui est réalisé. Mais ce qu'il faut aussi, M. Pierrot, il faut aussi lutter contre la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas seulement l'impunité qui est le grand facteur favorisant les violences sexuelles, mais aussi la pauvreté. Nous avons le militaire. Si nous avons des militaires qui commettent, qui sont pointés du doigt, qui sont accusés d'être à la base des violences sexuelles. Mais il n'y a pas seulement le militaire, mais il y a aussi de la part des civils.
Parfois, vous trouvez ce sont des filles pauvres qui provoquent, qui sont parfois à la base, de ces violences sexuelles. Voilà pourquoi, moi, je suis de l'avis de ceux qui ont proposé la sensibilisation. Il faut d'abord sensibiliser la population à comprendre quels sont les vrais facteurs qui favorisent les violences sexuelles et quelles sont les différentes formes de violences sexuelles. Monsieur Pierrot, vous pouvez faire le tour du territoire de Manon, c'est un vaste territoire, mais vous allez vous rendre compte que c'est au moins 2% des gens qui connaissent ça, et même aussi des organismes ou bien ces organisations non gouvernementales qui travaillent sur la lutte contre les violences sexuelles doivent aussi penser à former le militaire. Donc former le militaire, cela veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? De former les grands nombres de militaires. Et non seulement former deux ou trois éléments seulement de l'armée, c'est fini. Parce qu'il arrive des fois, on voit les organisations qui organisent des ateliers sur les violences sexuelles, c'est former seulement deux éléments, c'est tout. Et parfois, c'est deux éléments qui ne vont pas faire la restitution. Voilà pourquoi j'ai appuyé celui qui a parlé de l'éducation civique. Hein, il faut éduquer ces militaires, éduquer aussi les civils, sinon ça va donner quand même
merci.
Merci beaucoup, Dieu merci.
Vous avez dit déjà le fait qu'il y ait des procès qui sont organisés à Manono, par exemple, pour le cas de violences sexuelles, c'est déjà bon dans la lutte contre l'impunité, mais vous estimez que la sensibilisation, elle est importante, associée à ça la lutte contre la pauvreté, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de guerre, les viols qui est... favorisé par la pauvreté. Notre invité a évoqué tout à l'heure les mariages précoces, les mariages forcés, le fait que les familles sont dans une situation de besoin. Il y en a qui facilitent ces genres de mariages, c'est aussi les viols, mais il faut plus se sensibiliser à grande échelle au niveau de l'armée et de toute la population d'une manière globale. Merci beaucoup, Dieu merci. Jirès, vous êtes à Bandundouville, bonjour. Jirès, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Voilà, on vous écoute, Jirès.
Ok, merci beaucoup et nous voulons saluer l'invité qui saisissons l'occasion pour présenter nos félicitations pour les efforts qui ont été fournis afin que ce phénomène soit réduit à la baisse.
Oui, allez-y.
Moi, nous voulons dire ceci et poser cette question à l'invité qui est sur le plateau.
Oui.
Quels sont les mécanismes mis en place pour pouvoir intervenir rapidement et à temps réel pour les victimes de violences sexuelles qui sont dans des territoires ou dans des recoins qui sont enclavés? Par exemple, il y a des coins où il n'y a pas de téléphone, où on ne peut pas appeler par téléphone, mais néanmoins, les victimes existent, ils sont passés.
Voilà, merci. Vous avez demandé à notre invité s'il y a des mécanismes efficaces pour venir en aide aux victimes qui sont dans les coins les plus réguliers où il n'y a pas de moyens de communication. Qu'est-ce qui peut être fait? Merci beaucoup, Jirès. Pascal, vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour, Pascal.
Bonjour, la radio Kapi. Bonjour à notre invité.
Et à Dungu, par exemple, que ce soit au niveau des autorités publiques, que ce soit au niveau de la population des ONG, comment s'organise-t-on pour aborder cette question de lutte contre les violences sexuelles, Pascal?
Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, ici à Dungu, il y a des problèmes énormes concernant les violences sexuelles. Comme je vous parle aussi, nous sommes aussi une activiste des droits de l'homme et j'ai eu mon refus. Je vais suggérer cinq petites questions. Les cinq petites préoccupations sont celles-ci. Premièrement, je vais commencer par la vulgarisation de la loi dans la violence sexuelle. Deuxièmement, dommages des victimes. Et troisièmement, la condamnation des violateurs et premièrement, accès en justice pour tous. Et pour la dernière, c'est juste pour arranger la vie sociale de la communauté. Ce que je peux parler pour ça, à ce qui concerne la vulgarisation, ici à Dungu, vous savez que c'est un territoire là où il y avait des pressions de groupes armés et des races. Il y a encore des problèmes de garde à relever à ce qui concerne la violence sexuelle. Il n'y a pas la vulgarisation. On parle de violences sexuelles, on chante, mais il faut vulgariser la loi portant sur la violence sexuelle à langue nationale et pourquoi pas à langue locale, pour que tout le peuple congolais et la communauté de la RDC puissent connaître que la violence sexuelle c'est condamnable, tout ceci et cela. En ce qui concerne les dommages des victimes, c'est là où ça pose des problèmes. parce que la communauté préfère l'arrangement à l'amiable parce qu'il n'y a pas de dommages d'intérêt. Parce que la violence sexuelle, c'est pénalement. Vous voudrez, monsieur le journaliste, que un présumé arrêté pour la violence sexuelle, mais on peut, bien qu'on peut l'arrêter, mais la victime reste et abandonnée à leur triste sort. Peut-être elle pourrait avoir une grossesse, mais qui va supporter cette grossesse sans pour ça être dommagée. Et puis, vraiment, vous pouvez arrêter le gars, bien ça soulage la victime, mais il y a encore des gars là derrière l'arrestation. Il faut dommager la victime, parce que si on fait des coups de blessure, les on dommage. Mais pourquoi les cas de violence sexuelle, on ne dommage pas la victime? En ce qui concerne la condamnation, aujourd'hui, vous pouvez plaider pour l'arrestation des présumés violeurs, des présumés de violence sexuelle, mais deux ou trois jours, vous pouvez les voir encore dehors. Et de vous relever pour vous dire que là, vous pensez m'acheminer à la justice, c'est quoi? Quand la justice est faite, t'attends l'argent se parle et la justice est faite. Donc, j'ai mon argent, je vais faire ce qu'il faut. Et c'est là vraiment ça donne le stress à la victime et voir aussi que la famille. Et la famille commence à appliquer la justice populaire. Ou s'il y a ceci, il faut qu'on se chamaille, qu'on se fasse petit. C'est ça qui occasionne la justice populaire. Et en ce qui concerne l'accès à la justice.
À la justice, oui.
Ici à Dungu, il y a les gens qui vivent à 45 à 55 km de Dungu. Mais s'ils viennent saisir la justice, premièrement, on peut vous demander, il faut amener 36 000, 46 000. Premier, moi, donc, je suis victime de violences sexuelles. Je viens dénoncer. Pour moi, je vais encore payer la justice. Mais il faut que la justice puisse faire son travail, comme si alors pourtant, la violence sexuelle.
Oui.
Et si on me demande encore l'argent, c'est mieux que je puisse rester à la maison, qu'on puisse arranger à l'amiable. Mmh. En ce qui concerne la vie sociale de la communauté,
oui.
C'est le journaliste. Ici, à Dungu, il y a les gens, donc, prenez par exemple le mot de la construction. Il y a la construction, les gens qui construisent à 2 mètres, les paillotes de 2 mètres et 2 mètres carrés, qui vit toute la famille. Papa, maman, les enfants, tout là-dessus. Et vous savez, les enfants sont des imitateurs en VD. Tout ce que les parents font pendant la nuit tombe sur les oreilles des enfants. Et pendant la journée, les enfants commencent à impliquer cela. Que non, vous verrez que non, tout ça, la dingue, papa, la maman, ça, la canapou. C'est ça qui occasionne de la.
Et là, c'est une question importante, la pauvreté qui favorise la promiscuité, la pauvreté qui favorise la promiscuité, c'est à la base aussi hein, de cas de viol, des violences sexuelles. Vous avez évoqué ces cinq points qui sont très très importants, Pascal, la vulgarisation de la loi, il y a le problème de la réparation pour les victimes, il y a le problème de l'accès à la justice pour tout le monde, le moyen même pour porter plainte, la question de la pauvreté, la question de la condamnation, voilà toutes ces questions réunis dans la réflexion, on peut arriver à trouver solution à ces problèmes de violence sexuelle. Valentin, vous gardez la ligne, vous êtes à Kisangani, notre invité va réagir. Nous avons le message de Félix Klein de Bukavu. L'éradication des violences sexuelles en RDC, c'est une bonne chose. Ça permettra aussi de diminuer les infections sexuellement transmissibles dans la plupart de la population congolaise. Pour arriver à des bons résultats, il faut d'abord combattre l'existence des groupes armés dans l'ensemble de la cité nationale et puis en stabiliser la situation, apporter la paix. Florent Moukina de Kinshasa, pour réduire les viols, les hommes armés, il est important que les auteurs soient sévèrement punis, voire être renvoyés de l'armée congolaise, et c'est là, quel que soit le garde ou la fonction. Marc Lyoshi de Bukavu, mais alors, il faut éradiquer les violences sexuelles dues au conflit, et surtout en ce qui concerne les conflits armés, et puis il propose aussi qu'il faut vulgariser la loi sur les violences sexuelles. 0491-890-6315.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Thank you. Franck Kamunga, vous avez suivi, c'est de nos auditeurs, c'est une question transversale, c'est pas seulement le ministère du Genre, la justice, l'intérieur, et alors au niveau du bureau de la représentante, comment les services sont-ils structurés pour arriver à aborder cette question d'une manière transversale avec d'autres ministères, d'autres structures?
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que les intervenants ont posé des questions très importantes, et c'est là que le bureau de Madame le représentant trouve son rôle à jouer dans la capitalisation des énergies des différents ministères sectoriels, la mise ensemble ou la mise en commun pour leur avancée. La question spécifique sur le fonds de réparation, je crois que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Les intervenants ont dit clairement que lorsque les victimes ne trouvent pas réparation, elles préfèrent faire l'arrangement à l'amiable. Et cela encourage l'impunité. Et pour faire face à cela, il y a une initiative qui avait été commencée au niveau du ministère de la Justice pour la mise en place d'un fonds de réparation au profit des victimes. Cette initiative a été récupérée au niveau du bureau et on est en train de travailler à ce jour. On a un document qui est prêt, qui va être discuté avec la commission violence sexuelle du Sénat, de telle façon qu'on arrive à préparer un texte de loi qui permette à l'État congolais d'avoir un fonds de réparation pour les victimes. De telle façon que lorsque la sanction pénale est prononcée contre un présumé auteur d'infraction, que la victime ne s'arrête pas seulement à la satisfaction parce que l'auteur a été condamné, mais qu'elle trouve effectivement réparation avec les fonds qui étaient prononcés. Cela a déjà eu lieu récemment dans le procès Songomboyo, où les victimes ont reçu effectivement des fonds allant de 500 à 1000 dollars par victime. Donc ça démontre un certain niveau de volonté politique. Mais je crois que c'est quelque chose qui devra être terminé dans les quelques mois qui suivent, parce que le texte a déjà été largement discuté et avancé par rapport à cette question. À côté de cela, il y a une question qui a été évoquée pour la vulgarisation de la loi. Je crois que ça, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant, parce que tant que la loi n'est pas vulgarisée dans les langues nationales, les gens pourront toujours présumer qu'ils ne la connaissent pas bien, que la loi dit que tout le monde est présumé connaître la loi. Alors je crois que c'est quelque chose qu'il faut sûrement soutenir, et nous allons continuer à discuter avec les différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour pouvoir appuyer cette initiative à travers la République.
Mais il y a notre ami de Bandundu qui a posé la question sur le mécanisme pour d'alerte, par exemple, quand les victimes se retrouvent dans des coins les plus réticuliers où il y a des difficultés de communication. Y a-t-il des mécanismes plus efficaces pour entrer en contact avec ces gens de victimes pour les aider aussi, les assister?
Ouais, c'est pour cela que nous sommes en train de travailler ensemble avec le bureau conjoint des Nations Unies pour arriver à mettre en place un mécanisme qui non seulement facilite l'accès pour les victimes au centre d'appel, qui va nous permettre de leur fournir, les référer à des services juridiques, d'assistance juridique et d'assistance médicale, mais plutôt que à tous les niveaux où il y a des partenaires, des associations de la société civile ou des bureaux du Conseil des Nations Unies ou les cliniques juridiques, que ces personnes aient la possibilité, s'ils ne peuvent pas appeler, mais au moins d'aller rencontrer physiquement une clinique juridique dans leur communauté, dans leur territoire, leur parler et avoir la possibilité d'avoir accès à ces services. Et je crois que c'est une initiative qui ne peut pas être faite exclusivement par le bureau du représentant, mais nous sommes en pour parler avec les différents services techniques qui travaillent dans les structures d'assistance juridique, dont j'ai vu tout à l'heure le bureau conjoint des Nations Unies, et leurs différents services tels que les cliniques juridiques, les différents barreaux à travers la République démocratique du Congo, et les différentes ONG qui travaillent dans les secteurs d'assistance juridique et médicale. Je crois qu'une fois que tout ceci est mis en musique, nous ne manquerons pas de communiquer.
Voilà. On va écouter rapidement. Je crois que la réalisation va nous permettre d'écouter d'abord Franck qui nous appelle des lois. Patientez, Valentin, on va vous accorder la parole. Franck, parce que vous êtes à Vienne, vous venez de s'ajouter, bien sûr, à cette liste d'auditeurs pour intervenir. Vous êtes avec nous, Franck. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Et merci à tous les amis auditeurs qui ont déjà contribué. Je crois que le problème des viols chez nous, à suivre ce que les uns et les autres ont déjà dit, c'est aussi d'abord un problème de conception, de perception et d'éducation. Et à suivre, à rassembler les interventions déjà écoutées, c'est un phénomène qu'on est en train de commercialiser et de politiser. Et je crois que pour le combattre, il y a tout un arsenal de dispositions à prendre. Il y a la justice qui doit travailler, il y a le social qui doit être amélioré, il y a l'éducation qui doit encore être refondée, mais aussi le moral, la perception citoyenne de l'homme congolais. Parce que dans certains forums mondiaux, quand on assiste, là je suis en train de lire, de parcourir un ouvrage d'une femme qui venait de présenter la RDC comme les torchons du viol. Et vous voyez un peu l'image qu'on est en train de donner à notre pays. Mais là nous devons aussi dire que la politisation des branches armées, la commercialisation des rébellions, c'est tout ce qui fait que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Et si maintenant nous devons nous retrouver dans un pays qui a une justice à plusieurs vitesses, avec des castes des intouchables, avec des gens qui peuvent commettre des crimes aujourd'hui et demain être gratifiés au sein de l'armée, mais quel exemple peuvent-ils donner à toutes ces femmes-là qui sont violées? Donc on est en train de ridiculiser l'être même de la femme qui est porteuse de l'humanité. Et si la femme ne sait pas être respectée, si on arrive à humilier la femme jusqu'à ce niveau, nous les hommes, quelle considération sociale, quelle considération humaine nous pouvons avoir? Je crois que moi personnellement, je suis content d'entendre qu'il y a quand même diminution, mais tant qu'il y a encore des séquelles, de telles tendances dans le mental des citoyens, de certains citoyens, donc je ne peux pas me satisfaire comme ça, parce que c'est vraiment une marque. C'est l'incivisme. Donc, quelqu'un qui a été bien éduqué chez lui ne peut pas se permettre de violer une femme comme ça en présence des gens. Donc, je crois qu'il y a tout un arsenal de
travail qu'il faudrait faire.
Et puis, on demanderait au conseiller du chef de l'État qui est là, vraiment, monsieur le conseiller, sachez que la justice, c'est le poumon du développement. La justice, c'est le poumon de l'équilibre social. Si vous dirigez un pays.
Allô?
Oui, allez-y. Vous dirigez un pays où il y a des castes, des intouchables. Donc là, vous poussez les gens à rentrer en état de nature où l'homme est pour l'autre un loup, donc homo homini lupus. Est-ce que vraiment un pays comme la RDC a le mérite d'être traité comme ça dans le monde?
Merci, merci beaucoup Franck, voilà, merci. Merci beaucoup Franck, vous avez évoqué la justice et l'éducation, mais la perception même, déjà le fait que les gens utilisent des termes pour décrire ainsi la RDC en ce qui concerne le viol, c'est l'image du pays, et il faut vraiment un grand travail en ce qui concerne la justice et la lutte contre l'impunité au sein même de la population, que ce soit dans l'armée et partout ailleurs. On se retrouve avec vous Valentin et Christian, vous êtes à Kananga, l'émission consacrée à la lutte contre les violences sexuelles. Comme je le disais, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement. Et nous avons associé à cet échange M. Franck Kamunga, conseiller juridique du bureau de la représentante du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans les groupes et forces armées. Valentin, vous êtes à Kisangani, en province orientale. Vous étiez déjà avec nous tout à l'heure avant l'intervention de Franck. Alors, Valentin, vous avez suivi les uns et les autres. Quel ton point de vue?
Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je note que j'interviens à partir de la province orientale.
Oui.
Je remercie beaucoup l'invité de Radio Okapi et l'intérêt qu'il a accordé au sujet du jour. Cependant, j'ai des inquiétudes par rapport à la question des violences sexuelles. Quand j'ai fait le tour en province orientale, notamment dans la nouvelle province de Haute-Ouélé, j'ai constaté que là-bas, il n'y a pas de prison. Comment pensez-vous réprimer les violences sexuelles lorsque vous n'avez même pas d'endroit où vous allez mettre les prisonniers? C'est un problème, un défi majeur dans toute la République. Même là où il existe des prisons, vous allez trouver que les conditions ne sont pas réunies pour que les prisonniers y restent. Donc un prisonnier, une personne est arrêtée, le matin et le soir, on est obligé de la relâcher parce que on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre la personne en question. Oui, c'est donc un défi majeur à relever. Surtout pour ce qui est de Haute-Ouélé. À Iziro, il n'y a pas de prison. Et quand vous allez même à Ituri, dans les territoires de Djougou, la prison qui était là-bas, elle est déjà détruite. Elle n'a plus de toiture. C'est la prison qu'on appelle la prison Tshisekedi. Il n'y a pas de toiture. Et quand vous faites le tour de la République, c'est ça le problème. On construit d'abord les prisons.
Voilà, merci beaucoup, Valentin. Merci, Valentin. C'est un défi, comme vous l'avez dit. Si on doit arrêter les prisonniers autour des viols, il faudrait les garder. Mais où les garder? Dans la province, là, c'est une province des Hautes-Uélées qui est là. Il n'y a pas de prison. Que ce soit aussi à Issirou, à Dugou, vous estimez que ça, c'est dans les Touris. Il sera difficile de pouvoir garder les présumés violeurs. Sinon, on est obligé de les relâcher parce qu'il n'y a pas de structure pour pouvoir le détenir. Merci beaucoup, Valentin. Christian, vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis en train de vous dire merci pour le verbe que vous m'adjugez.
Mm-hmm.
Je crois que l'émission est si importante et je manifestais mon intérêt de participer. Et je rappelle que c'est Christian Bouy, à partir de Kananga. Je suis plutôt en train de dire grand merci et beaucoup plus de féliciter le gouvernement de la RDC pour les efforts qu'il a consentis via le pouvoir judiciaire, parce qu'ici à Kananga, nous avons quand même de punitions exemplaires. Dernièrement, c'était les hauts cadres de l'armée qui a été même radié de l'armée et croupit en prison. Mais il reste encore que les victimes puissent dénoncer. Okay. Comment voulez-vous que la justice fasse son travail aussi longtemps que les victimes elles-mêmes ne veulent pas dénoncer leur cas et veulent, n'est-ce pas, traiter à l'amiable? Alors je suis en train de demander afin que la publication de la loi soit faite et mettre beaucoup plus de l'accent sur la vulgarisation de la loi et la dénonciation de faits.
Mm-hmm.
Alors, je crois que le temps ne permet pas. Je interviens en dernier lieu.
Merci. C'est déjà bon. Merci beaucoup pour cette intervention, Christian. C'est mieux ce qui s'est déroulé à Kananga et aussi la médiatisation du procès. Ça a été important. Radio Kapi est revenu depuis la dénonciation des faits jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation. C'est important que ce soit mis à la place publique. Mais vous estimez qu'il faudrait vulgariser la loi, mais il faut aussi que les victimes puissent dénoncer. Parce que ce qui arrive plusieurs fois, c'est que les victimes de violences sexuelles s'étaise, et quand on s'étaise, ça devient difficile. Mais la dénonciation aussi, Christian, vous savez, marche de pair avec la compréhension au niveau de la société, parce qu'il y a une intervenante au début de cette émission qui a évoqué la stigmatisation. Quand les victimes sont stigmatisées au niveau de la société, alors elles se renferment sur elles-mêmes et ça devient difficile qu'elles puissent pouvoir témoigner. John O'John de Boutembo nous écrit ceci: la déclaration de Mme Janine Mobunda est une bonne chose, car nous avons besoin de la diminution sensible des cas de violence, mais la détermination du gouvernement n'est plus pas se limiter à mi-chemin. La volonté doit être accompagnée par le premier point, c'est la création d'un tribunal spécial pour juger les gens qui ont commis des grands crimes au Congo et qui restent jusque-là impunis. Il faut l'indépendance, assurer l'indépendance de la justice. Il faut l'éradication de tous les groupes armés dans toute l'étendue nationale, parce que sans la paix, ça sera difficile qu'on puisse lutter contre les violences sexuelles. Les membres de la commission des droits de l'homme doivent vite se mettre au travail. Vous venez de suivre d'ailleurs dans le flash information de Radio Capi, on a évoqué l'élection de membres du bureau de la Commission nationale de droits de l'homme. Nous revenons à vous, Franck Kamunga. Placé et moi, avant d'écouter les derniers auditeurs et revenir à vous pour la conclusion. Il y a notre ami qui insiste beaucoup sur la dénonciation. Parce que là, on évoque souvent les cas de stigmatisation, ce qui ne facilite pas la tâche aux victimes pour pouvoir dénoncer.
Merci beaucoup, Pierrot. Je crois que le fait d'avoir donné un numéro d'appel, je le reprends encore 0497222, donne la possibilité aux victimes de pouvoir dénoncer à travers un coup de téléphone sans que nécessairement ils aient étrangement quelqu'un qui peut les stigmatiser. Je crois que c'est aussi déjà une mesure prise par rapport à cette question-là. Mais parce que plusieurs fois, on est revenu sur l'image de la RDC par rapport à cette question, par Franck qui a fait de Vienne, puis je remercie aussi en passant. Je crois que l'image de notre pays, c'est nous-mêmes qui devons la porter. Et je dois vous dire que pour la première fois après 10 ans, la RDC a été capable de présenter sa réponse officielle et consolidée à travers toutes les formes sectorielles au Conseil de sécurité à la date du 15 avril récent, au Conseil de sécurité aux Nations Unies. Je crois que c'est la meilleure façon de présenter les progrès réels du pays par rapport à cette question. Et je dois dire en passant que la RDC avait reçu, lors de cette présentation, les encouragements et remerciements de la part de l'Union africaine, de la part de la France, de la Belgique et tant d'autres pays du Japon qui reconnaissent de façon très claire que les réalisations et les progrès de la RDC sont exemplaires par rapport à d'autres pays africains. Je dois dire aussi que le cadre législatif, la loi congolaise sur les violences sexuelles est l'une des lois les plus strictes à travers le monde entier. Et c'était 10 à 20 ans de prison ferme. Et pour le cas de notre ami qui a évoqué la condamnation de la deuxième personnalité de la police, je crois qu'il faut dire qu'on ne peut plus prétendre qu'on peut avoir une justice seulement pour les pauvres qui n'ont pas de moyens. Je crois que le général Kakwa qui a été condamné n'est pas un pauvre du tout. Il a contribué aussi à la pacification au processus de paix, mais cela n'a pas fait qu'il puisse échapper à la condition judiciaire. Et il a été condamné à plus de 10 ans à ce que je sache. Et le colonel Pan ici, c'est à Bukavu, je crois que vous connaissez également le cas, le commissaire provincial adjoint, qui a non seulement été condamné à plus de 10 ans de servitude pénale principale, mais a été même radié de la police. C'est une sanction administrative très grave. Et c'est une première fois, je ne pense pas qu'il y ait 2-3 pays à travers le monde qui veulent donner ce genre d'exemple. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement.
Voilà. Permettez-moi que le dernier auditeur puisse intervenir, oui. C'est Maître Trésor qui est ici à Kinshasa. On va revenir à vous rapidement pour la conclusion. Maître Trésor, vous avez suivi les uns et les autres en une minute votre intervention par rapport à la contribution sur la lutte contre les violences sexuelles. Rapidement.
Maître Trésor, l'icône de Kinshasa. Je voudrais tout simplement proposer à la représentante du président de la République en matière de violence sexuelle ceci. Les comportements sexuels antérieurs de la victime de violence sexuelle devraient également susciter son attention, parce que c'est une question qui suscite beaucoup de cas de violence sexuelle aujourd'hui marchandées à travers les pays. Il faudrait que l'on puisse clarifier un peu les choses, parce que nous étions dans un contexte de la guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre à travers les pays. Il faudrait que l'on puisse tout simplement cibler quelle est la jeune fille mineure qui devrait être peut-être violée ou non. La fille qui n'a pas gardé sa virginité jusqu'à l'âge de la majorité, dès lors qu'elle est touchée ou violée par un bourreau, on devrait également prendre en compte son comportement sexuel antérieur. Parce que ça frise de la pudeur dans la société et ça fait de la honte pour la famille congolaise que une fille qui a déjà été prise par beaucoup d'hommes soit violée et que le bourreau lui-même seul soit poursuivi pendant que les autres qui étaient déjà en train de prendre la fille n'ont pas été inquiétés. Cette question-là devrait susciter vraiment l'attention de la représentante du président de la République en matière de violences sexuelles.
Merci beaucoup, Maître Trésor. On va conclure cette émission. Vous estimez qu'il faudrait, en cas de la pudeur, bien sûr, de l'honneur de la famille, tenir compte aussi du passé récent, de la sexualité de la victime. Je crois que cela doit entrer dans le cadre de l'éducation, de la sensibilisation. C'est pourquoi on a évoqué les rôles des confessions religieuses, le rôle des parents, le rôle de l'école, pour permettre aux filles d'avoir ce comportement de cette pudeur et peut-être éviter d'arriver à tous ces cas. Merci Maître Trésor, merci à tous ceux qui sont intervenus. On revient à vous Franck Amonga pour conclure cette émission. On a suivi le débat, il a été vraiment très intéressant. C'est pas la dernière fois qu'on va aborder les cas de violence sexuelle. On vous écoute pour la conclusion.
Ok, merci beaucoup Pierrot pour l'invitation et pour l'intérêt de tous les auditeurs de cette émission. Et merci pour leurs contributions qui ont été très significatives. Nous les prendrons en compte et nous pensons par rapport à la question de réintégration socio-économique que les premières formations pour les victimes et les ex-enfants soldats pourront commencer d'ici fin de juin à Bénir ou sur le Niragongo et nous allons continuer ainsi pour les autres provinces. Et je voudrais vraiment encourager tout le monde à pouvoir dénoncer pour le cas de viol, parce que il n'y a aucun cas de viol qui peut être acceptable. Un seul cas de viol est un cas de trop. Je voudrais juste encourager les auditeurs à pouvoir continuer à dénoncer à notre numéro 089-7222 ou bien le 47-33-33, de telle façon que ensemble nous puissions contribuer à l'éradication définitive de ce phénomène. Et je vous remercie pour l'invitation.
Merci Franck et Kamonga d'avoir accepté notre invitation, conseiller juridique au bureau de la représentante du chef de l'État chargé de la lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants dans les groupes et forces armées. Merci pour votre disponibilité. Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire cette émission. Mimi Kindou, la mise en onde de Julie Julie César, l'a réalisé. Pierrot et la Mégie vous l'a présenté. On se retrouve demain à 11h30 heure de Kinshasa. Vous le savez, 30 avril 2015, 6 ans, jour pour jour, pour Parole aux auditeurs. C'est 6e anniversaire de Parole aux auditeurs. Une émission spéciale, on se retrouve demain. Votre point de vue par rapport au déroulement de cette émission, ce qui doit être fait pour l'améliorer, mais aussi pour l'avenir des Paroles aux auditeurs. On se retrouve demain à 11h30 heure de Kinshasa. Merci à tous.